Chapitre 7. Insubordination militaire. Le maréchal Foch fut un grand soldat dans la bataille. C'est très bien. Est-ce assez? Malgré ses 40 ans de « service », comme disent les soldats, d'une expression singulièrement forte, quelques voix du dehors, quelques arguments spécieux, purent lui faire oublier parfois le sens de sa vie et sa raison d'être. Sa foi dans la vertu de la plus haute de ses obligations, l'obéissance, n'était pas à l'épreuve. Son âme a manqué de cette inflexibilité dans le devoir qui est la manifestation la plus sûre de la grandeur morale et intellectuelle chez le civil, chez le soldat. Pour cette raison primordiale et pour le judicieux exercice de l'art militaire, tous les soldats de tout grade sont soumis aux communes disciplines de l'obéissance hiérarchique dont il ne leur est permis en aucun temps, sous aucun prétexte, de se départir. À la tentation, ce soldat a fait litière d'une religion de la discipline qu'il avait pratiquée et enseignée lui-même pendant toute sa carrière. Fut-il grisé par l'éclat de sa renommée, aveuglé par les fumées de l'encens? Se crut-il appelé à jouer un rôle politique, comme tant d'autres guerriers dont l'histoire rapporte qu'en méconnaissant leur devoir, ils aggravèrent les maux qu'ils avaient promis de guérir? Ayant dit devant les alliés ce qu'il croyait devoir faire connaître de son opinion sur le traité de paix, le maréchal avait dégagé sa responsabilité. Il était quitte vis-à-vis de lui-même. Ses vues étaient connues, elles avaient été étudiées par les pouvoirs publics. Quelle que dût être la suite que ceux-ci leur donneraient, ils n'avaient pas le droit d'en appeler aux politiciens. Il n'était ni un plénipotentiaire, ni un homme d'État. Commandant des armées alliées, il n'était qu'un soldat. En de telles circonstances, le rôle était assez beau. « Savez-vous, me dit un jour le maréchal, que je ne suis pas votre subordonné ?»« Non, je ne le sais pas, répondis-je en riant. Je ne veux pas même savoir de qui vous vient une pareille doctrine. Vous connaissez mon amitié pour vous. Je vous conseille énergiquement de ne pas mettre cette idée en pratique, car cela n'irait pas du tout. » Pas de réplique. Dans ses allégations et ses dénégations, le général ne cherchait pas toujours une scrupuleuse conformité avec les faits, ce qui le mettait parfois en contradiction avec lui-même. En pleine discussion du traité de paix, il avait donné un interview au Daily Mail pour contrebattre les accords des alliés, et j'avais appris de bonne source qu'un de ses officiers était allé corriger les épreuves. Monsieur le président Wilson et Monsieur Lord George me reprochèrent vivement une tolérance qui permettait cette intervention abusive du soldat dans l'œuvre des pouvoirs civils. Je demandai des explications au général, qui nia être l'auteur de l'article, et me dit que l'officier dont je lui parlais était en ce moment sur la route d'Angoulême. Sur quoi je mis fin à l'entretien pour éviter un incident, et j'empochai la remarque de Monsieur Lord George, concluant qu'en Angleterre, un manquement de cet ordre aurait été sévèrement puni. Mais voici qu'aujourd'hui, le général, dont les souvenirs étaient flottants, nous est donné pour avoir dit « J'avais simplement donné un interview au Daily Mail pour dire ce que je pensais du traité qui se présentait. La reproduction de cette interview fut interdite par la censure. Clémenceau, dominateur, jacobin, acceptait malaisément que quelqu'un d'autre, surtout un militaire, s'immisçât dans les négociations qu'il entendait mener à lui seul. C'était l'aveu après la négation. Quand j'exige de l'autorité militaire le respect du pouvoir civil, je suis dans l'obligation de rappeler au maréchal Foch qu'il n'avait pas le droit de faire du journalisme. Le 5 octobre 1919, Monsieur Lord George avait envoyé au maréchal ses sincères félicitations pour son anniversaire. Foch écrit « Je suis très touché de vos félicitations, je n'oublie pas que c'est à votre insistance que je dois le poste que j'occupe actuellement. » À quoi je réponds qu'il est absolument faux que le maréchal Foch ait jamais dû son poste à Monsieur Lord George. Il me le devait à moi, chef du gouvernement français, qu'il avait voulu ainsi, tandis qu'il avait fallu une défaite de l'armée britannique pour faire cesser la résistance du gouvernement anglais à la nomination du général Foch comme commandant en chef. Et quant à féliciter M. Lord George d'avoir imposé son choix d'un général français au gouvernement français lui-même, pour un soldat français, quel étrange oubli de sa dignité personnelle et du respect dû à son propre gouvernement. Et qu'en dire encore si le fait allégué est d'invention pure? j'avais placé l'armée d'Orient, division française et britannique, sous le commandement du général Franchet d'Espéré, limogé avec le général Duchesne après l'effondrement du chemin des Dames, dont il portait, avec d'autres, la responsabilité. Monsieur de Fraissinet, qui avait eu le général Franchet d'Espéré auprès de lui, m'en avait parlé avec éloge, et ce fut la raison pour laquelle je l'appelai à ce poste important en le relevant d'une disgrâce momentanée. J'eus le tort de ne pas consulter M. Lord George, qui ne s'embarrassait pas toujours de nos arrangements. Je ne sais qui lui fit connaître que j'avais mis un général limogé à la tête de l'armée d'Orient. Le plus grand vaincu de cette guerre fut le surnom dont il le gratifia à cette occasion. Il m'accabla des reproches les plus violents en plein conseil de Versailles. Je gardai tout mon calme et répondis simplement que je changerais le commandement en chef de l'armée d'Orient si M. Lord George me le demandait, mais que je ne le lui conseillais pas. M. Sonnino me félicita d'avoir pu garder mon sang-froid, et M. Lord George, à la reprise de la séance, me proposa, le sourire aux lèvres, de rayer du compte-rendu toute cette partie des débats, ce à quoi j'acquiesçai d'un signe de tête. Quand le général Franchet d'Espéré fut victorieux jusqu'à prétendre imposer d'Orient la paix sur le front d'Occident, je fis remarquer à mon collègue britannique que je n'avais pas si mal choisi. « Il a eu de la chance, me répondit-il. « C'est déjà bien, répliquai-je, il y a tant de gens qui n'en ont pas. » En réalité, je n'avais fait que changer d'adversaire, car le général Franchet d'Espéré me maltraita fort dans un article qu'il avait inspiré et qui fut relevé par M. Tardieu. Trop de militaires et même de civils ont une fâcheuse démangeaison de croire que le monde est fait pour eux. Le général Franchet d'Espéré, m'ayant d'abord reproché dans la presse de l'avoir empêché de remporter la victoire décisive, finit par demander à M. Tardieu si c'était par moi ou par Foch qu'il avait été limogé. Tout mon crime était de l'avoir remis en selle au bout de quelques jours, tandis que Foch avait, dans une situation analogue, attendu des mois avant de retrouver un commandement. On voit que mon privilège fut de recevoir des coups de tous les côtés. La philosophie n'est pas inutile à l'homme public qui ne cherche que l'intérêt général dans l'exercice de son autorité. De cet avantage, en curieuse contrepartie, ce que l'on avait appelé l'incident de la villa romaine. Le général Mordac a trouvé dans ses papiers la note suivante, que je publie sans y rien changer. Incident de la villa romaine. Le 6 octobre 1918, M. Clémenceau apprend que M. Lord George, sans consulter personne, a télégraphié directement au général anglais Milne, qui commandait les forces anglaises en Orient sous les ordres du général Franchet d'Espéré. Il le mettait sous l'autorité du général Allenby, commandant en chef des forces britanniques en Palestine, dans le but de faire exécuter par les forces anglaises de Palestine et d'Orient une opération combinée sur Constantinople. M. Clémenceau fit aussitôt remarquer à l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, Lord Derby, que c'était là une véritable dénonciation de l'alliance franco-anglaise, étant donné qu'il avait été convenu que toutes les forces d'Orient en Europe seraient placées sous les ordres d'un général français, en l'espèce le général Franchet d'Espéré, qui avait la direction générale des opérations sous l'autorité du ministre de la Guerre. 7 octobre. Pendant la journée du 7 octobre, de nombreuses dépêches furent échangées à ce sujet entre Londres et Paris. M. Clémenceau, à la suite de ces dépêches, acquit la conviction que M. Bonnard Law et Lord Robert Cecil étaient complètement de son avis et prêts à le soutenir. Il se montra donc de plus en plus ferme dans ses revendications, et M. Lord George, ne se sentant pas sur un terrain très solide, finit par céder, déclarant même que c'était un malentendu, qu'il avait été mal compris, que telles n'avaient pas été ses intentions et qu'en tout cas le télégramme devait être considéré comme nul et non avenu. 9 octobre. Le 9 octobre au soir, en rentrant du Conseil suprême qui s'était réuni à Versailles, M. Clémenceau me parut très irrité contre le maréchal Foch. Il me raconta que le matin, au cours d'une réunion préparatoire à la Villa Romaine, à Versailles, chez M. Lloyd George, le maréchal, après avoir promis à M. Clémenceau de soutenir le gouvernement français qui était complètement opposé à cette expédition anglaise combinée sur Constantinople par voie de terre, Europe et Asie, sous la direction du général Milne, avait tout d'un coup, au cours de cette séance préparatoire, pris parti pour M. Lloyd George. 10 octobre. Le lendemain, 10 octobre, le maréchal, appelé par M. Clémenceau, vint le trouver au ministère pour lui donner les raisons de ce brusque changement d'attitude. Il n'arriva pas à convaincre M. Clémenceau, bien qu'il ait ajouté qu'à son avis, le terrain en Asie et même en Europe était peu praticable, et par ce fait même, les ravitaillements et évacuations presque impossibles. Le général Milne recevrait très probablement une forte tape. « Pourquoi, dans ce cas, répliqua M. Clémenceau, ne l'avez-vous pas dit à M. Lloyd George ?» Le maréchal haussa les épaules pour toute réponse. Je cite ces incidents parce qu'ils caractérisent les difficultés d'une situation où se heurtaient les éléments qui devaient avant tout s'accorder. Le maréchal Foch avait le droit de changer d'avis, mais il aurait dû m'en aviser. Et je ne pus cacher ma surprise quand je le vis revenir finalement à sa première opinion après avoir fait pencher la balance de l'autre côté. Ce simple exposé suffit à faire apparaître les dispositions injustifiables du commandant en chef à se soustraire à son devoir. Que dire quand il va s'ingérer dans les ordres de la conférence des alliés et refuser de transmettre une dépêche portant convocation des plénipotentiaires? Au 17 avril 1919, le maréchal Foch avait reçu du signataire des lignes suivantes la dépêche que voici. République française, le président du Conseil, ministre de la guerre, Paris le 17 avril 1919. Le président de la conférence de la paix à monsieur le maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Conseil suprême des puissances alliées et associées a décidé d'inviter les délégués allemands munis de plein pouvoir à se rendre à Versailles le 25 avril au soir pour y recevoir le texte des préliminaires de paix arrêtés par les puissances alliées et associées. Il y a donc lieu de prier, par l'entremise de M. le général Nudan, le gouvernement allemand d'indiquer d'urgence le nombre, le nom et la qualité des personnes qui les accompagnent. Il vous appartiendra, monsieur le maréchal, de vouloir bien donner toutes instructions pour le transport et l'arrivée de la délégation allemande. Des instructions sont d'autre part données à la Sûreté nationale pour la surveillance et la protection de la délégation allemande à Versailles, qui ne cesse de représenter l'ennemi jusqu'à la signature des préliminaires de paix. La délégation allemande devra rester strictement confinée dans son rôle et ne comprendre que des personnes qualifiées pour leur mission spéciale. Un groupe d'officiers a été demandé à l'état-major de l'armée à l'effet d'assurer la liaison entre la délégation allemande, le secrétariat général de la conférence et toutes autorités françaises intéressées. Signé Georges Clémenceau. Le maréchal n'envoya pas ma dépêche. Il tenta d'expliquer son refus d'obéissance au ministre de la guerre, président de la conférence de la paix, comme un trait de caractère. L'objet du télégramme, dit-il, était en contradiction avec la promesse qui m'avait été faite d'être entendu par le Conseil des ministres. D'ailleurs, les termes de ce télégramme étaient obscurs. Le maréchal n'a pas osé publier le texte que je viens de donner, parce qu'il en résulte, contrairement à son allégation, qu'il n'y a rien d'obscur dans le texte de la dépêche. Je défie tous les porte-paroles de relever une virgule sur laquelle on puisse ergoter. Si le refus d'obéissance n'était pas d'une ultime gravité, je dirais que la faute de Foch en un pareil moment prenait un caractère singulièrement tragique, du fait qu'elle était en même temps un acte de désobéissance aux alliés qui lui avaient confié leurs soldats. C'est ce qui amena sur les lèvres du président Wilson cette parole décisive « Je ne confierai pas l'armée américaine à un général qui n'obéit pas à son gouvernement ». Les terribles événements que nous avons traversés ont suscité en nous de violentes émotions, mais nous pouvons voir chaque jour qu'elles ont été bien vite oubliées. Comme le général n'avait aucune raison, même d'apparence, pour refuser d'envoyer la dépêche que je lui transmettais, je suis bien obligé de croire qu'il a voulu simplement retarder l'arrivée des plénipotentiaires afin de donner le temps de développer sa fatidique thèse du canon français sur le Rhin. Il barrait donc la route aux puissances alliées. C'est lui-même qui se vante de cet acte de révolte militaire. Qu'aurait-il dit si je lui avais refusé mon concours parce que je blâmais l'une de ses opérations militaires? Je temporisais cependant. J'envoyais moi-même la dépêche à Spa en ayant soin d'y mentionner le refus du commandant en chef afin qu'il demeurât une trace matérielle de la faute. Puis je dus m'expliquer avec le maréchal lui-même, à qui je fis connaître les protestations des gouvernements alliés. Nous ne pouvions conserver à la tête de nos armées un soldat en état de révolte. Je pris donc toutes les mesures que commandait la situation, y compris la nomination d'un nouveau commandant en chef, qui était le maréchal Pétain, et après un délai de quelques jours destiné à donner chance au repentir, j'obtins des alliés l'autorisation de maintenir Foch à son poste s'il promettait sur l'honneur de ne plus recommencer. Il prit tous les engagements que je lui demandais. Il a oublié de le dire. Je le regrette pour lui. Même posthume, l'aveu n'eût pas été indifférent. Cela ne lui a pas suffi. Il a prétendu, lui mort, nous contraindre au respect de sa faute en retournant ses récriminations contre moi. Peut-on dire cependant que j'ai été trop rigoureux envers lui, ou ne faut-il pas reconnaître que je l'ai tiré d'un mortel embarras? N'avais-je pas fait de même à la Chambre dans le débat sur l'affaire du chemin des dames, où sa responsabilité était si gravement engagée? Si alors je péchais, ce fut par excès d'indulgence, dans la crainte de troubler l'esprit public et d'enlever aux troupes alliées leur confiance dans le succès. Il y a bien une autre question, mais elle m'échappe et pour cause. M. Raymond Poincaré, président de la République, nous dominant tous de son autorité, je voudrais savoir s'il est intervenu auprès du maréchal Foch, comme c'était son devoir, pour le blâmer d'un acte insigne de désobéissance militaire. Aujourd'hui, nous savons qu'il avait fait une théorie à l'usage du maréchal pour lui expliquer qu'il n'était pas mon subordonné. Qu'est-ce donc qui pouvait dégager le maréchal des liens de la Constitution, des lois françaises et de la subordination militaire? Lorsque le président de la République a vu son subordonné militaire se mettre en pleine révolte contre le gouvernement français et ses alliés en le refusant obéissance, lui a-t-il dit un mot, un seul, pour le ramener au devoir?